Et puis, cet effort de faire émerger en lui une identité hébraïque qui était récessive, qui était enfouie par son exil à Ur-Kasdim. Et lorsqu'il y arrive, il se nomme Abraham. Et d'autre part, ce parallèle, je voudrais le montrer, quelle que soit la difficulté du caractère aigu de ce parallèle, un peu entre les Juifs et les Israéliens. Tout se passe que, comme si les Juifs étaient un indice Abraham, et que les Israéliens tentent à retrouver l'indice Abraham, passer d'araméen à hébreu. Au fond, c'est ce qui nous arrive. Et c'est plein de problèmes. Ce sont les problèmes, premier problème que je signale, de la maison d'Israël. Nous revenons d'exil avec une identité Aram. Elle s'appelle juive de notre temps. Et nous avons à retrouver l'identité hébraïque, celle qui s'appelle Abraham. C'est la première référence. Et ce n'est pas par hasard, je pense, que ce qui a émergé de notre temps avec le phénomène du sionisme israélien, c'est l'hébreu comme restauration d'identité, comme première restauration d'identité, la langue hébraïque. Vous êtes, de votre temps, dans votre génération, familier avec cette présence de l'hébreu. Nous étions, nous, de notre génération, d'un temps où il y avait une mise en clandestinité totale de l'hébreu dans la culture universelle, chez les juifs y compris. Les juifs ne parlaient pas hébreu. Ils avaient des langues juives, araméennes, mais ils ne parlaient pas hébreu. Et puis le monde de la culture universelle avait évacué l'hébreu et toute référence à l'hébreu de la culture contemporaine. Et bien voilà ce qui se passe dans la troisième maison d'Israël. C'est Abraham qui redevient Abraham. Et ce n'est que lorsqu'il redevient Abraham qu'il arrive à entendre les promesses que Dieu faisait à Abraham alors qu'il n'était qu'Abraham. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est clair. Et la deuxième référence, c'est lorsque Joseph a été jeté dans ce qu'on pourrait appeler la prison, la fosse en Égypte, et que on le découvre comme capable d'interpréter les rêves, on lui demande qui il est. Je n'ai fait aucune allusion à Freud, mais enfin vous voyez que il a un problème d'identité malgré tout. Alors il répond, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Or, qu'est-ce qu'il y avait comme Hébreux au pays de Canaan? La famille de Jacob et ses enfants. Mais on connaissait cette terre comme la terre des Hébreux. Et effectivement, le Saramashkim, le ministre du Pharaon, à qui Joseph parle, comprend de quoi il s'agit. On ne disait pas, c'est clair ce que je dis, on ne l'appelle pas encore la terre d'Israël, on ne l'appelle pas la terre des Juifs, on l'appelle la terre des Hébreux. Ça veut dire qu'elle est originellement la terre d'une nation qui est la nation des Hébreux, lesquels étaient en exil. Abraham est revenu de cet exil et a refondé, restauré ce qui sera la première maison d'Israël. Encore une autre référence, ce sera la dernière sur ce thème, c'est lorsque Moïse est chargé de faire savoir au Pharaon que le temps de la fin de l'exil est arrivé, Dieu lui dit de dire « Eloke ha-ivrim nikra alen » Le Dieu des Hébreux s'est révélé à nous. Et le terme employé pour dire « révélé » dans ce verset, Rashi met l'accent, ça veut dire « a fait irruption sur nous ». Un peu comme cela est arrivé dans notre temps. Subitement, Dieu se jette sur nous comme Dieu des Hébreux, et il est appelé ainsi. On pourrait multiplier ces références sur ce point, mais je crois que ça suffit pour restaurer l'identité hébraïque originelle. Or, j'en arrive à la dernière partie de cet exposé, je voudrais dire très rapidement que tous les problèmes extérieurs de la société d'Israël sont les problèmes extérieurs de la famille des patriarches quand l'identité hébraïque apparaît, elle les déclenche. Vous remarquez que dans le récit biblique, chacun des patriarches est accompagné par au minimum deux personnages. Un qui est l'antagoniste absolu, qui veut détruire ce qui est en germe. Au temps d'Abraham, c'est Nimrod, le tyran des empires. Et l'autre qui est une espèce d'approximation d'identité qui s'instaure en rivalité. Et au temps d'Abraham, c'est Lot. De Lot procèdent deux peuplades qui seront de prétentions messianiques. Tout cela, ce sont des sujets pour eux-mêmes. C'est Moab et Amon. Et ça se sépare d'Israël. À la fin des temps, il y a l'espérance que ce qu'il y avait comme sainteté dans cette approximation revienne, mais l'adresse, c'est Israël. C'est plus Lot, Amon, Moab. Pour les érudits de la Bible, vous voyez comment ça traverse tout le récit biblique de la Bible tout entière. Nimrod veut détruire Abraham qui émerge comme hébreu. Lot veut le remplacer. Deuxième génération, c'est Isaac. Alors nous avons l'histoire d'un certain Abimelech, roi de Philistée. Aujourd'hui on appelle ça la Palestine, c'est le même mot. Okay, qui dispute à Isaac sa terre. Et reprenez le texte. Et c'est l'antagoniste d'Isaac. Et puis, l'approximation d'identité qui veut le remplacer, c'est Ishmaël. Ishmaël, c'est le texte, un étranger qui ressemble comme un frère, mais là, c'est un frère qui ressemble comme un étranger. Ça, c'est Ésaü. Et voilà. Eh bien, toutes ces rivalités, toutes ces prétentions d'annulation, nous les avons autour de nous. Et chacun d'entre nous peut faire le diagnostic à sa manière. Où est Nimrod? Où est Lot? Où est Abimelech? Où est Ishmaël? Où est Laban? Et où est Ésaü? Mais c'est clair. Lorsque nous sommes plongés dans ces textes, c'est clair. C'est de l'hébreu, disent les non-hébreux. Et voilà qu'un septième personnage apparaît à des moments caractéristiques de notre histoire. Les exils qui correspondent aux trois patriarches. L'exil d'Égypte correspond à l'histoire d'Abraham, dit le Midrash. La vertu qu'Abraham a réussi à faire émerger à l'échelle individuelle, son peuple comme descendance, à l'échelle collective, devait en faire la preuve dans cette expérience de l'exil d'Égypte. Et il sort avec cette vertu d'Abraham. Isaac, c'est l'exil de Babel, et Jacob, c'est l'exil de Rome dont nous sortons maintenant. Et c'est quand Jacob sort de l'exil de chez Ésaü qu'il reçoit le nom d'Israël. C'est ce que nous vivons. Tout cela est très ample. Il y a énormément d'implications. Mais je vous le dis très rapidement. Or, à chaque fin d'exil, apparaît un septième personnage qui récapitule les deux prétentions des ennemis d'Israël. Ceux de Nimrod, Abimelech, Laban, annulés au niveau de la terre, au niveau du peuple, au niveau de la loi, au niveau de la Torah, de l'âme. Et ceux de Lot, Ishmaël, Esav, remplacés. Et c'est Amalek qui veut à la fois annuler et remplacer. Et il est inutile de diagnostiquer, c'est clair. Or, effectivement, on s'aperçoit qu'Amalek apparaît chaque fois qu'il y a une fin d'exil. Chaque fois que l'exil prend fin, et qu'Israël se restaure comme maison d'Israël, Amalek apparaît et récapitule en lui les dossiers des antagonistes et des rivaux. 6 et le 7e les récapitule. C'était à la fin de la sortie d'Égypte que la première fois on nous parle de l'irruption d'Amalek sur les faiblards de la sortie d'Égypte. Vous retrouverez les versets. Et puis à la fin du deuxième exil. Alors c'est toute l'histoire d'Amalek qui est reprise dans le livre d'Esther. Il ne s'agit que de cela. Dès qu'Israël se prépare à rentrer chez lui, Amalek se dévoile. Et de notre temps, disaient les journaux. Voilà donc le premier schéma. Alors je reviens au deuxième, très rapidement, pour conclure ensuite sur une formule d'espérance, puis c'est notre champ national. Les problèmes intérieurs. Et je crois encore une fois que le problème intérieur grave, c'est cette séparation entre juifs qui se définissent par le peuple et que ça, et juifs qui se définissent par la Torah et que ça. C'est le problème grave de notre temps. Eh bien, je crois que la Torah nous l'a déjà raconté. Elle nous l'a raconté dans la figure de Moïse. Les problèmes extérieurs, nous les apprenons d'Abraham et de la famille des patriarches. Les problèmes intérieurs, nous apprenons de Moïse. Il faut savoir que le peuple d'Israël a connu Moïse sous deux visages. Et les références que nous avons à ce sujet sont très amples. D'abord, le visage d'un chef politique qui avait un seul programme, ce que nous appelons aujourd'hui sionisme, c'est-à-dire mettre fin à l'exil et rentrer au pays des ancêtres pour construire la maison d'Israël. Effectivement, en Égypte, quand Moïse apparaît pour la première fois, aucune allusion à aucune Torah encore. Moïse leur apparaît comme un chef politique qui appelle à la révolte contre l'aliénation de l'exil, mettre fin à l'exil et se constituer en nation hébraïque. Le Dieu des Hébreux a fait irruption sur nous. Vous vous rappelez de ce verset? Des Hébreux, tu dis. Et au Sinaï, après la sortie d'Égypte, avec ce que Moïse avait réussi à faire sortir d'Égypte, un cinquième du peuple, dit la Midrash, Moïse se dévoile dans un tout autre visage, le prophète révélant la Torah. Et il y a une tension d'identité dans cette perception du même peuple de son chef. Ce chef a deux visages. Cela n'a rien à voir avec ce que dit Freud des deux Moïse. Ceux qui ont lu le livre de Freud sur Moïse savent que c'est des fantasmes. C'est tout à fait autre chose. Mais il y a quand même deux Moïse. C'est le chef politique, et encore une fois son programme. Pour lui, la foi d'Israël, c'est le sionisme, il n'y en a pas d'autre. La promesse qui a été faite que l'exil temps anormal prendrait fin et qu'on entrerait construire la maison d'Israël en hébreu, va s'accomplir. C'est ça le sionisme. Et puis, deuxième visage de Moïse, il y a une Torah à la clé, si j'ose dire. Alors imaginez ce peuple en tension absolue entre deux manières de se définir. Eh bien, c'est ce que nous vivons, d'une certaine manière. Dans la société israélienne, cet éclatement en quatre parties que je vais essayer de vous décrire. Ceux qui reconnaissent le Moïse chef politique et pas le Moïse prophète, ce sont les juifs de l'histoire juive militante rejetant ce qu'on appelle la religion juive. La schématisation est inévitable, mais j'espère que notre vocabulaire se raccorde. Ceux qui reconnaissent le Moïse de la Torah du Sinaï et pas le Moïse de la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les juifs religieux antisionistes. Et puis, il y a ceux qui ne reconnaissent ni l'un ni l'autre. On les appelle les assimilés. Et puis, il y a, grâce à Dieu, ceux qui reconnaissent les deux Moïse, et celui de la sortie d'Égypte et celui de la Torah. C'est l'état de la société israélienne contemporaine. C'est l'état du peuple juif en général. Mais c'est dans la société israélienne que ces problèmes sont des problèmes d'identité au niveau de l'existence, et pas seulement au niveau d'autres niveaux. Et pour paraphraser une phrase célèbre, je dirais que il y a plusieurs chambres dans la maison de mon peuple. Vous avez deviné de quoi je parle pas. Il y en a quatre au minimum. Il y a Moïse de la sortie d'Égypte, il y a Moïse de la Torah, il y a Moïse de rien du tout, ni Moïse de l'un, ni Moïse de l'autre, et il y a le Moïse des deux. Ça, c'est l'identité hébraïque qui tend à faire l'unité entre ce qui nous vient des patriarches, l'appartenance nationale à la nation des Hébreux, et ce qui nous vient de Moïse, la révélation de la Torah et l'indice de l'universel que l'âme juive a prise en tant qu'hébraïque. Elle est un indice de l'universel humain. Voilà, je crois que c'est ainsi qu'un Israélien peut vous parler de la manière dont il vit cette construction de la troisième maison d'Israël. Je résumerai en deux phrases. C'est irréversible, c'est définitif, c'est ultime et c'est une question de foi. Mais ça implique énormément d'érudition et de capacité d'éclairage. C'est plein de problèmes. Les problèmes extérieurs sont énormes parce que nous avons autour de nous tous ces personnages qui ont entouré les patriarches. Et puis, c'est plein de problèmes intérieurs, parce que nous héritons, enfin, nous ressuscitons les problèmes des Hébreux dans notre relation à Moïse. Je parle en diaspora. Mais c'est un tout autre sujet, parce que je crois que ce sera le point d'orgue, si vous voulez, de cette analyse. Au fond, le problème de la diaspora, c'est ce problème-là. Seulement, c'est dilué au niveau de l'identité juive, qui est une identité mixte. Le caractère société juive n'existe pas en diaspora, il y a la communauté juive. Et je crois qu'il faut là reprendre le sens de ces mots dans le vocabulaire de la sociologie française. La société, c'est le groupement des hommes autour des intérêts. Et il s'agit des intérêts à la vie, des intérêts de vie, d'existence. La communauté, c'est le groupement des hommes autour des idéaux. Or, Israël est une société qui peut se permettre d'avoir en son sein des communautés différentes, toutes juives, mais différentes. Alors que la communauté en diaspora est un problème insoluble. Comment être la communauté alors qu'on est plus... Comment être une communauté unie alors qu'on n'en est plus une société et qu'il y a tellement de facettes qui se contredisent. C'est le problème intérieur de l'identité juive. Mais je crois, c'est ma parole d'espérance, que les problèmes de diaspora sont au second degré. Et ils deviennent des problèmes réels, avec perspective de solution possible à travers la durée, si la diaspora se considère comme elle est censée l'être, la diaspora de l'État d'Israël contemporain. Je terminerai là-dessus. Je crois qu'il y a une ambiguïté de ce problème. L'État d'Israël, que représente-t-il pour le juif de diaspora à ce niveau? Notre diaspora, et j'ai encore vécu dans la première partie de ma vie avant l'État d'Israël, ce temps-là était la diaspora de la deuxième maison d'Israël. Nous avons été l'exil du deuxième temple. Subitement, la troisième maison d'Israël apparaît. Or, nous continuons à être, la plupart du temps, la diaspora du deuxième baït contemporain du troisième baït. Et le problème, c'est de régulariser que la diaspora devienne la diaspora de l'État d'Israël contemporain et plus cette nostalgie, cette mémoire qui nous a gardés dans l'histoire, mais dont nous sortons comme d'une préhistoire et qui a été l'exil du deuxième royaume de Juda détruit par Rome il y a 2000 ans. C'est fini. Depuis 1948, il ne s'agit plus de ça. Nous avons passé à un autre monde. Et donc, il suffira que la diaspora se connaisse comme diaspora de l'État d'Israël pour que ces problèmes deviennent susceptibles de solutions. Mais je crois encore une fois, pour résumer, que le problème plus sérieux, c'est ce risque, avant qu'il ne soit trop tard, de désunion entre ces deux manières de se savoir Israël, les descendants des patriarches ou bien les disciples de Moïse. Or, la Torah de Moïse et ce que les prophètes d'Israël et les sages d'Israël en ont dit par la suite, lorsqu'ils parlent de l'histoire des descendants des patriarches, prophétisent, promettent une unité totale et irréversible et ultime. Je crois que cela passe par la capacité de courage de ce que ont les hommes d'Israël qui sont simultanément les tenants de Moïse, de la politique, de la sortie d'Égypte, de chef politique de la sortie d'Égypte, et les tenants de Moïse, prophète qui a révélé la Torah.
Les étoiles, le peuple nombreux comme les étoiles dans le ciel, et même d'ailleurs cette promesse est renforcée, je crois, par la lecture de la Haftara. Si je me souviens bien, le texte est un texte d'Isaïe où on compare Cyrus à Abraham. Et on le compare pourquoi comme prophète? Parce que Cyrus est celui qui ramènera les exilés de l'exil de Babel. Alors tout ceci est aussi enthousiasmant que ce que tu viens de nous dire, ou presque. Il a fallu deux millénaires et même un peu plus depuis la destruction du premier temple. Est-ce que on peut prophétiser et ne pas donner de date, comme disait Jacques Madol, prophétiser mais ne donner pas de date, ou bien est-ce qu'effectivement il est actuellement dans les possibilités d'appréhender, en tous les cas, de créer les conditions pour que cette espérance se réalise? Quel est ton sentiment à la lecture de la Sidra de la semaine, qui, comme tu nous l'as indiqué, a remplacé la lecture des journaux de cette semaine?
Si j'ai compris la question, je me référerai cette fois à un thème de l'identité de Jacob, qui a reçu le nom d'Israël. Les promesses concernent l'identité Israël, et elles sont données à Jacob. Question: pourquoi ces promesses sont si difficiles à se réaliser?
Eh bien, il faut que Jacob devienne Israël pour que les promesses se réalisent. Nous naissons Jacob, et nous devons faire de nous-mêmes Israël. Je citerai une analyse du Ben Ishraï, qui est un grand kabbaliste de Bagdad du siècle dernier. Je vais peut-être citer une fois ici, je ne me souviens pas. Nous, en parlant de la Sidra où Jacob reçoit le nom d'Israël, dit ceci. La différence en gamatria, en valeur numérique, vous êtes habitué à cette formule, entre le nom Jacob et le nom Israël renvoie à deux autres noms. C'est Moïse et David. Jacob, c'est le peuple. Moïse, c'est la Torah. David, c'est la terre d'Israël, le royaume d'Israël. Et pour que Jacob devienne Israël, il faut qu'il y ait avec lui Moïse et David. Si vous calculez la valeur numérique de Jacob, vous ajoutez celle de Diane, de Yaakov, plus Moshe, plus David, ça fait Israël. C'est une coïncidence colossale. Prenez ça comme une coïncidence, sinon vous aurez des cauchemars. Et effectivement, c'est ça notre problème. Il faut que Jacob ait l'âme de Moïse et la terre de David pour qu'il soit Israël. Réfléchissons à ça, là-dessus. C'est-à-dire, encore une fois, c'est le problème de la prière. Pourquoi j'ai à demander ce que Dieu voudrait me donner? Pourquoi je le demande? Parce qu'il faut que je sois celui qui le mérite. Et alors, c'est pourquoi la prière, c'est un jugement. Et je me mets devant le tribunal et je demande, est-ce que je mérite ce que je demande? Et se dévoile si je mérite ou pas. Il suffit que je sois celui qui mérite pour que ça s'accomplisse. C'est très proche. Il suffit que Jacob soit Israël pour que les promesses faites à Israël s'accomplissent. Alors nous sommes en train de devenir Israël. C'est un moment intense pour notre histoire. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous communiquer cette émotion. Nous vivons cela. Une histoire a commencé à Abraham, trouve son point de réalisation dans notre temps. La troisième maison d'Israël. Je répète, c'est plein de questions. Certains vous diront, mais j'ai des textes. D'autres vous diront, j'ai des raisonnements. Mais je vous ai dit tout à l'heure, je peux vous donner un référent dans la Gemara de Brachot, ça se tranche ni par le texte ni par le raisonnement. Il y en a là. Et là, et c'est une question d'option de foi. Et comment Rabbi Hanan a exprimé cela? Il a dit, Ezéou ben Aram là-bas, qui entrera dans mon avenir? C'est celui qui s'engage déjà le soir. C'était la référence que je vous avais donnée. Il n'a pas dit du tout, le verset me démontre que, le raisonnement me démontre que, le soir mène au matin, quand le soir a commencé, enfin le soir du lendemain qui chante, comme disent les autres. Et ça me rappelle un très beau vers de mon flègue, car la nuit n'a plus noir et une aube qui vient. Et voilà, il y a, oh, ça va me faire une belle image, il y a une référence à la prière du matin, on cite le fait qu'en pleine nuit, à minuit, le coq a l'intelligence de savoir que le soleil va se lever. Anoten aservi bina la prim beyon ben laïla, qui donne au coq l'intelligence de distinguer entre la nuit et le jour, quand, en pressentiment que c'est pleine nuit. C'est ça l'intelligence. En fait, le coq, ça représente la France, que nous avons une rencontre entre France et Israël, et que je crois que le coq est en train de voir le jour pointer dans la nuit. Enfin, c'est un peu ce que je... Ce que je voulais dire, c'est une question, une option de foi. Mais nous le vivons, et à ce niveau, très intensément, nous avons une mémoire énorme de l'hébreu qui a été juif, qui redevient hébreu, et c'est notre vie municipale. C'est notre vie de société. C'est ça la troisième maison d'Israël.
Ce ne sera pas trop long, Michel. Ce sera trop long.
Malheureusement, la majorité ne se considère même pas comme en exil du deuxième temps, en exil de comme en étant de la vérité de Jacob. Il y a une grande différence entre un juif de la diaspora française et un français de confession mosaïque. Alors que, je le disais par exemple dans le Jewish Chronicle avant-hier, l'émotion d'un juif venu exprès de Sibérie pour assister à la foire du livre israélien et qui éclatait en 100 jours pendant les 6 jours où il y a passé en disant il y a des juifs qui parlent de l'homme sous. Pour dire qu'effectivement, tant qu'un juif se sent rattaché à l'extérieur, il n'est pas perdu, il sera rattaché à l'extérieur. Et malheureusement, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, les gens se sentent en exil.
Oui.
La troisième remarque.
Ah, il y en a
trois. La troisième remarque, c'est que nous avons célébré aujourd'hui beaucoup.
Vous m'avez promis des
très grands. Nous avons célébré aujourd'hui beaucoup des 40e anniversaire.
Oui.
Il y en a un que nous connaissons aussi, c'est le 40e anniversaire de la mort de notre maître, Jacob Bordin, qui connaît pour la fin. Quelqu'un a fait allusion. Et M. Bordin avait cité, nous avons discuté hier, il y a trop longtemps, avait cité un enseignement selon lequel on pouvait envisager, après les événements épouvantables de la guerre du nazisme, un retour en Eretz Israël ne serait que provisoire pour reprendre des forces, alors que tu nous as dit qu'il n'y a aucun enseignement à ta connaissance qui ne pense au retour des filles. La
catégorie, c'est vraiment très vrai. Non, il n'y a que trois
mots. Je pense qu'il y a une différence fondamentale lorsque tu parles du soir et du matin que nous devons déjà faire la halakha comme celui qui dit, alors que nous sommes enfants dans la nuit. Déjà, c'est qu'il y aura l'autre. Je crois que là, il y a, me semble-t-il, pour le respect que je vois, une confusion entre le fait d'être en situation d'exil, non pas d'entrer dans l'exil, et d'être en fin d'exil. Monsieur Gordon enseignait évidemment que Galut exil et que Oula, les livrants sont indissociables, et qu'on ne peut pas parler d'exil sans parler de
l'exil. Ça, il dit tout ça.
C'est vraiment la dernière, c'est qu'il y a une occultation totale dans mon discours de ce que signifiait ou ce peut signifier l'exil. Bon, que nous sortions ou ne sortions pas d'exil, c'est le problème. Mais l'exil a toujours existé depuis l'origine en tant que donnée fondamentale de l'économie des bassins et pour le redire un petit peu comme aurait pu le dire, comme l'a écrit malheureusement Banner, l'aide de M. Gordin, on pourrait dire que l'exil est une situation ontologiquement anormale, bien dit anormale, mais historiquement, existentiellement normale.
Ça c'est à quel prix? Mais que l'événement est là, pour quelqu'un qui pendant 4000 ans, le juif d'aujourd'hui, l'israélien, a cru et a vécu son histoire d'Israël sous le regard de Dieu, il est évident que l'événement est irréversible. Ou alors, on avoue qu'on ne croyait pas à ce qu'on croyait. Or, comme on y croit, Les coudas.
Madame.
De
Bina.
J'ai pas entendu.
Tu as parlé de Bina.
Moi, j'ai parlé de Bina.
À propos du coq, oui.
Ah, la servie, Bina, la prime, l'intelligence. Oui. Dire quoi? Je pense que nous sommes dans un temps où il y a une émergence de l'identité féminine qui est salvatrice. C'est le thème de Nachim Satkaniot qui accompagne les fins d'exil. Par exemple, si Israël a pu traverser le désert, c'est grâce au mérite des femmes. Vous savez tout ça, ce sont des sujets pour eux-mêmes. Mais je pensais avant votre dernière phrase que peut-être ce serait cette capacité de l'énergie matricielle, si j'ose dire, parce que l'engendrement vient de la matrice et nous sommes un temps d'engendrement, permettrait la conciliation-réconciliation entre les identités masculines, diasporiques plus ou cananéennes plus. Ça c'est moi qui l'ajoute. Et je crois que, en tout cas, l'aspect du problème que j'ai voulu traiter est très précis. Quelles que soient les options individuelles, et encore une fois, elles sont légitimes dans leur légitimité propre, eh bien, il y a eu un événement. J'essaie de décrire de quelle nature il est. Et je fais allusion à la première des questions, je n'ai pas le temps de me traiter de tout. Ce n'est pas une option de foi de dire que l'Israélien est un juif qui redevient hébreu. C'est un fait, c'est une réalité, ce n'est pas des mots, c'est un fait. Nous vivons cela, et redevenant la société hébraïque, nous retrouvons tout ce que la Bible a raconté du peuple des Hébreux. Il y avait les uns et les autres, il y avait les autres et les uns, et les uns et les autres, et les autres et les uns, pour tous les problèmes. Eh bien, pour l'Israélien, c'est normal de vivre cela. Encore une fois, une société peut se permettre d'avoir en son sein des communautés différentes de la même identité. En diaspora, c'est un problème insoluble. Par exemple, j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, un penseur israélien dire « Le problème du peuple juif, c'est la pratique des misotes. Qui ne pratique pas les misotes n'est plus juif. » En Israël, c'est inaudible, parce que ça consiste à définir les juifs que comme disciples de Moïse. Or, ils sont les descendants des patriarches. Alors, au niveau hébreu, ce problème éclate. C'est autrement que ça se récapitule. Et au niveau juif, de diaspora, c'est un problème insoluble. Voilà des exemples. Peut-être qu'il suffirait de reformuler cela ainsi. Je me rebranche sur ma page de Talmud. Ces problèmes d'option de foi, lorsque le temps fait apparaître des mutations d'identité, ne dépendent ni de l'érudition, ni du raisonnement, ni de l'idéologie. C'est une option de foi.
Ça c'est lié peut-être, et ensuite M. Miltoati voudra-t-il conclure cette
soirée?
Oui,
parce qu'il est tard.
Dernière question, M. Toiti.
Par ailleurs, vous savez que ce texte nous dit que 10 des nations saisiront le peuple d'un juif et nous irons avec vous, avec toi, parce que nous savons que Dieu est avec nous et avec toi. Et il est vrai que nous suivrons non pas un juif de la diaspora, mais nous suivrons un hébreu, à savoir qu'il soit sioniste avec la Torah à la main et dans son cœur. C'est celui-là que nous suivrons. Dans ce temps très messianique.
Merci.
Je voulais juste aussi poser une question concernant le troisième temps. Nous interpellons tous vers lequel nous tendons notre espoir.
Quelle question?
À propos du troisième temps.
Ah, je devine la question, vous ne l'avez pas dite. Mais écoutez, je voudrais vous citer un enseignement, si mes souvenirs sont exacts, qui nous est enseigné au nom du Chafetz Chaim, qui indique ceci. Il y a 4 formes de pouvoir dans la société biblique. Le pouvoir civil, politique, ça s'appelle le roi en ce temps-là. Le pouvoir législatif, celui du juge. Le pouvoir sacerdotal, celui du prêtre, et le pouvoir prophétique. En hébreu, ça se dit Melech, le roi, Shofet, le juge, Kohen, le prêtre et Navi le prophète. Or, le Chafetz Chaim a signalé cela, si ce n'est pas lui, ça aurait pu être lui, que les premières lettres de ces quatre mots forment le mot de Mishkan. Mishkan, c'est le sanctuaire. Il y a des étapes. D'abord, le même de Mishkan, c'est Malchut, la société, avec son pouvoir politique. Nous n'avons pas un roi, nous avons un petit roi, un président, c'est Iran Pin. Mais on a les rois qu'on a. D'ailleurs, les rois ont les juifs qu'ils ont. Et puis, la deuxième étape, c'est Shofet, le Sanhedrin. Et aujourd'hui, nous avons un grand rabbinat d'Israël, qui est un petit appendice de l'État. C'est encore dans Malchut. Le Sanhedrin, c'est pas encore là. Ça viendra. Après, il y a Cohen, le prêtre, c'est le temple, le Beth Amikdash. Et après, selon la prophétie de Moïse, qui fera que nous soyons tous des prophètes? Meiten veniye kulanu nevi'im. Eh bien, nous sommes en train de vivre la première étape. Nous sommes en restauration du Mishkan. Et c'est le même qui apparaît d'abord, Malchut. Alors, toutes les forces, c'est pour Malchut. De Malchut procédera le Shin, Shofet, le Sanhedrin. Après viendra le Beth Amikdash. Et après, la connaissance de Dieu emplira le monde comme l'eau le fond des mers. Vous vous rappelez du verset du prophète. Et alors, il ne faut pas être, si j'ose dire, archaviste. Archaviste, ça veut dire maintenant, tout de suite, tout ou rien. Okay. C'est, Madame Amado Al-Ainsi avait donné une fois une image. Ça, c'est infantile. Le biberon, je veux le biberon tout de suite. Et si je n'ai pas le biberon tout de suite, je crie. Okay. Ça, c'est être archaviste. Okay. On a perdu la dimension de la durée de l'engendrement. Et alors, ce que je voudrais ajouter, et ça c'est mon témoignage personnel, nous ressentons cela. Si cet ensemble a commencé par sa première étape, tout a déjà commencé. Et effectivement, tout est en travail. Et l'État, ça c'est le pouvoir politique, et déjà la législation du Sanhedrin, ça se prépare dans les yeshivot. On est en train de penser une Torah pour un État. Chose que pendant 2000 ans, ça nous était complètement abstrait. On pensait une Torah pour des communautés. Et indexer cela à la différence entre juifs et hébreux, que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Nous avions une Torah de vie privée. Nous avions une Torah de congrégation confessionnelle, à la limite. Okay. Et il nous faut une Torah pour un État. Mais c'est une mutation radicale, ça se prépare. Et pendant ce temps, dans certains échivots, on prépare déjà les habits du grand prêtre. On étudie comment faire les sacrifices. On a déjà les pierres pour construire le temple et on a les plans. Bon, c'est des secrets publics, comme tous les secrets israéliens. Les quatre étapes sont déjà en route, mais le gros plan, c'est la question d'existence, parce qu'il y a les frontières qui sont des non-frontières, comme vous le savez, et parce qu'il y a les risques de culture campagne intérieure, si vous suivez ce qui se passe en particulier à Jérusalem entre Datim et Chilonim, c'est arrivé à un niveau très grave, des deux côtés. Des deux côtés, il y a une radicalisation qui est assez inquiétante. Ceux qui vivent à Jérusalem le sentent, et je crois qu'il faut avoir le courage d'accepter de résoudre ce problème. Ceux qui ne sont que l'un ou l'autre sont marginaux. Et il faut arriver à aider ceux qui sont et l'un et l'autre. C'est par là que l'unité passe, même si c'est une minorité de minorité. À propos de minorité, c'est vrai qu'il y a un midrash qui explique Abraham l'hébreu de cette manière. Rashi cite un des trois midrashim. Abraham, on l'appelle l'hébreu parce qu'il parle hébreu. Et à Moscou ou ailleurs. Okay. Et il était à Ur-Kasdim, lui. Il est sorti de la fournaise d'Ur-Kasdim, ça ressemble beaucoup à l'histoire de notre génération, les rescapés. Et puis, un deuxième midrash dit que ça veut dire il y a le monde entier d'un côté et Abraham tout seul de l'autre. Mais Ever Echad. Et bien Abraham était tout seul. Et le monde entier de l'autre côté, s'il y a minorité, plus que ça, il n'y a pas minorité. Le troisième midrash dit qu'il venait de l'au-delà du fleuve. Ça veut dire il revenait de l'exil. Il était ailleurs qu'en lui-même. Et ça, c'était la dimension légitime en son temps de la relation à l'universel humain. Qu'est-ce que faisait Abraham? Qu'est-ce que faisait la famille Terah, le père d'Abraham? Qu'est-ce que faisaient les Hébreux dans la civilisation chaldéenne? Ça, c'est le grand mystère de l'invraisemblance, de l'anormal pris pour le normal. qu'est-ce que font les Juifs en, je sais pas moi, en Patagonie. Et alors, lorsqu'il y a cette relation universelle, ça apparaît comme de l'universalisme. Mais lorsqu'il y a le Rassemblement national, il est à se demander si cette relation universelle n'est pas souvent un alibi de cosmopolitisme, et que c'est tout à fait autre chose. Et ça, ça éclate de notre temps. Ce sont nos problèmes. Encore une fois, je résumerai ça en disant, la question n'est pas de savoir où comme ça, ou comme ça, ou Abraham, mais un verset dans les chroniques de Dibra et Amin, qui est repris par la Gemara, le verset dit Abraham ou Abraham. Abraham, c'est Abraham. Vous avez compris l'implication de cela. Et la Gemara explique, quand il était Abraham, il était Av le Aram, l'identité araméenne, c'est-à-dire l'identité hébraïque enfouie sous l'écorce araméenne, et dont il faut se débarrasser pour devenir Abraham. Et puis, lorsqu'il est Abraham, c'est à l'indice de l'universel qui Abrahamon Goïm Netaticha, car je te destine à être le principe d'une multitude de nations. Ça aussi, il faut étudier ce que ça veut dire. Et c'est ce passage à l'universel que nous sommes en train de vivre. C'est en tant que nation, nous sommes reliés à l'universel. En tant qu'individu, nous sommes cosmopolites, c'est tout à fait autre chose. Et ça se dévoile de notre temps. Encore une fois, la question est de savoir dans quel temps nous vivons. Or, la Bible nous a déjà raconté tout ça, à la sortie d'Égypte, le livre d'Esther, et nous lisons ça dans les journaux de notre temps. Ce que je voulais ajouter, peut-être je m'arrêterai là, c'est que les références auxquelles je me suis relié indiquent que quand ça arrive, cela, c'est irréversible, définitif et ultime. C'est pour ça que je voulais dire.